Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme, dont voici les principales articulations. Dans l'actualité de l'Église, nous vous ferons le point des activités du pape au cours de la semaine qui vient de s'achever, mais aussi nous nous rendrons au Burkina Faso, en République démocratique du Congo, entre autres. On parlera également d'actualités sociopolitiques africaines et les pays concernés seront notamment le Nigeria, la Centrafrique, le Togo. À tous et à toutes, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niémier.
Ouvrons l'actualité de l'Église par la semaine du pape. Camille Moukoso.
Le pape a célébré samedi une messe privée avec le corps de la gendarmerie vaticane à la grotte de Lourdes au jardin du Vatican. Le Saint-Père a nommé samedi le cardinal Dominique Mamberti, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, comme son envoyé spécial pour présider à l'Eucharistie qui aura lieu le 28 novembre prochain dans la basilique de Kolkelberg à Bruxelles à l'occasion du 150e anniversaire de la fondation de l'association Pro Petri Sede. Par ailleurs, le Saint-Père a nommé samedi M. David Charles Bocombe, professeur de botanique à l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne, membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences. Vendredi, le pape avait reçu en audience privée les membres de l'association Circolo San Pietro ou Cercle de Saint-Pierre. À cette occasion, le Saint-Père, dans son adresse, leur a rappelé leur devise qui est « prière, action et sacrifice ». Trois mots qui, selon François, représentent les trois principes cardinaux sur lesquels repose la vie de l'association Circolo San Pietro. L'évêque de Rome a encouragé le membre de Circolo San Pietro à poursuivre avec engagement et joie leur œuvre de charité, toujours attentif et prêt à répondre avec audace aux besoins des pauvres. Les jeudis, le Saint-Père avait accepté la démission présentée par le cardinal Giovanni Angelo Becciu de sa charge de préfet de la Congrégation pour la cause des saints et de ses droits liés au cardinalat. En tenant son audience générale mercredi dans la cour Saint-Damas du palais apostolique, le Saint-Père a poursuivi sa catéchèse sur le thème « Guérir le monde », abordant le point sur la subsidiarité et vertu d'espérance. François a indiqué que pour sortir meilleur de la crise que nous vivons, chacun de nous est appelé à assumer sa part des responsabilités. Aujourd'hui, a-t-il soutenu, le manque de respect pour le principe de subsidiarité s'est diffusé comme un virus. Lundi, le pape avait reçu en audience les enfants autistes de la clinique ambulatoire Sonnenschein en Autriche. Dans son adresse, François leur a rappelé que leur clinique signifiait la splendeur du soleil, un nom choisi sans doute par la ressemblance à une magnifique prairie de fleurs au soleil. Et le pape dit continuer, le fleur de cette maison c'est vous. Dieu a créé les mondes avec une grande variété de fleurs de toutes les couleurs. Chaque fleur a sa propre beauté qui est unique. Chacun de vous, a poursuivi François, est également beau aux yeux des dieux qui nous aiment. Cela nous fait ressentir le besoin de dire à Dieu « Merci, merci pour le don de la vie, pour toutes les créatures, merci pour maman et papa, merci pour nos familles et merci aussi pour nos amis. »
L'actualité de l'Église, c'est aussi la rentrée pastorale dans l'archidiocèse de Koupéla, au Burkina Faso. Les assises pastorales ont eu lieu du 22 au 24 septembre. L'ouverture de ces journées a été précédée d'une paraliturgie d'intronisation de la parole de Dieu. Les détails dans ce reportage.
Réunis autour de leur archevêque Monseigneur Gabriel Sayaogo, au centre diocésain Zakaré Nikima, laïcs, religieux, religieuses et prêtres ont d'abord évalué l'année écoulée avant de se projeter sur la nouvelle année. Ce faisant, l'Assemblée a d'abord écouté le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires OPM, Monsieur l'abbé Donatien Salgré, dont la communication a permis de dégager le thème qui servira de phare pour la réalisation des activités de la nouvelle année pastorale. Ce thème qui s'inspire de celui des OPM Burkina Niger se formule ainsi. fils et filles de l'église famille de Dieu à Koupéla, notre vie est une mission. Partant, les agents pastoraux ont déterminé les principales activités à mettre en œuvre au cours de cette année pastorale 2020-2021. Monseigneur Gabriel Sayaogo, qui préside pour la première fois ses assises à Koupéla, où il a été nommé comme archevêque en janvier dernier, a embrayé avec des assises presbytérales dès la clôture des travaux le 24 septembre 2020. Paul Dawagadougou pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, la radio Tomisa du diocèse de Kikwit célèbre ses 25 ans d'existence. Notre correspondant local nous en parle.
L'évêque de Kikwit, Mgr Timothée Bodika, a ouvert l'année du jubilé d'argent par une messe célébrée le dimanche 20 septembre dans les studios de la radio. La messe a été retransmise en direct. À l'homélie, Mgr Bodika a expliqué le terme Tomisa en langue Kikongo, qui veut dire améliorer et relever le goût.
La radio Tomisa porte le nom de Tomisa, qui est tout un symbole, un programme autant qu'un présage. Le nom Tomisa à Kikongo tombe à point nommé dans le contexte socio-politique.
Mgr Bodika a rappelé que la radio diocésaine, créée en 1996 par son prédécesseur, Mgr Marie-Édouard Mounounou, avait un but social et religieux précis. La responsabilité demeure.
La radio Tomisa Ngoma ya Kikwit veut incarner les espoirs d'une belle société, d'une belle cité où vit notre peuple.
L'évêque de Kikwit a annoncé la promulgation prochaine par lui d'une lettre pastorale pour instituer un dimanche de la collecte de fonds pour soutenir la radio Tomisa et nouveauté en vue de la création d'une télévision catholique Tomisa pour le diocèse de Kikwit. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Les évêques du Kenya réitèrent leur appel contre le projet du gouvernement sur ce qu'ils qualifient de santé reproductive. Les évêques du Kenya font à nouveau entendre leur voix contre le projet de loi sur les soins de santé reproductive 2019, actuellement à l'étude au Sénat. Un projet de loi controversé dont l'Église a souligné à plusieurs reprises les questions critiques, notamment la promotion de l'avortement, contrairement à l'article 26 de la Constitution nationale qui protège le droit à la vie de la conception à la mort naturelle. Le projet de loi soutient la légalisation de l'avortement, de la planification familiale, de la maternité de substitution et de l'éducation sexuelle, y compris la théologie du genre. Il s'agit d'un projet qui dégrade la vie des femmes, dévalorise le caractère sacré de la vie, disqualifie les principes constitutionnels, moraux et scientifiques selon lesquels la vie commence au moment de la conception et se termine par la mort naturelle. Les évêques de Zambie demandent aux politiciens de s'engager dans des actions non seulement politiquement correctes, mais aussi écologiquement correctes. C'était à l'occasion d'un événement le jeudi 24 septembre en mode virtuel. La réunion a été ouverte par le père Cléophas Lungu, secrétaire général de la conférence épiscopale de Zambie, qui a rappelé l'importance de se concentrer sur des programmes qui traitent de manière critique l'impact de la crise écologique, en particulier sur les plus pauvres, les plus vulnérables, les marginalisés dont le cri ne peut être ignoré. Nous sommes au milieu d'une urgence climatique, a poursuivi le père Lungu.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
C'est par la République démocratique du Congo que nous ouvrons l'actualité sociopolitique africaine. Bataka Katanga, une milice séparatiste, a fait une incursion à Lubumbashi, au sud-est du pays, dont la nuit de vendredi à samedi, attaquant notamment le siège régional de la télévision nationale et provoquant des tirs nourris à balles réelles. Selon un bilan officiel, deux policiers et un soldat ont été tués lors de cette incursion. Ces assaillants ont été neutralisés, plusieurs blessés et capturés. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a annoncé samedi sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 27 décembre prochain, se disant accepter la proposition de son parti, le mouvement Cœur Uni, réuni en congrès dans la capitale Bangui. Après Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, pour la deuxième fois en 10 jours, la Cour africaine de justice a désavoué la Côte d'Ivoire en lui demandant vendredi de réintégrer l'ex-président M. Gbagbo sur la liste électorale pour la présidentielle du 31 octobre. Dossier élection toujours. L'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, a été investi vendredi par son parti, le Mouvement patriotique pour le salut, pour la présidentielle du 22 novembre prochain. En exil au Canada depuis 2016, M. Zida, dont le retour avait été annoncé par son parti, était finalement absent, mais il s'est exprimé par visioconférence.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
30 personnes ont été tuées vendredi dans une embuscade tendue par des djihadistes contre un convoi transportant le gouverneur de l'État de Borno au nord-est du Nigeria, selon un nouveau bilan communiqué samedi par des sources sécuritaires. La communauté économique des États ouest-africains CEDEAO a maintenu vendredi les sanctions imposées au Mali à la suite du coup d'État militaire du 18 août dernier, refusant de se contenter de l'investiture d'un président de transition le jour même et insistant sur la nomination urgente d'un premier ministre civil. Les sanctions seront levées lorsqu'un premier ministre civil sera nommé, a indiqué le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. La présidence de la République du Togo a annoncé vendredi la démission du premier ministre Kommi Selom Klassou et de son gouvernement. Le président Faure Yassingbé, qui a accepté cette démission, a félicité le premier ministre et toute l'équipe gouvernementale pour les efforts engagés sur le plan économique, politique et social, ainsi que les résultats encourageants obtenus malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire que traverse actuellement le monde entier. En remerciant particulièrement M. Klassou pour son sens élevé du devoir, le président Yassingbé l'a chargé d'expédier les affaires courantes. Un tribunal de Khartoum a condamné 6 artistes soudanais à 2 mois de prison pour nuisance publique, portant à 11 le nombre de personnes condamnées dans cette affaire controversée, a annoncé vendredi leur avocat. Les 11 artistes avaient été arrêtés le 10 août dernier par la police après avoir été attaqués par des assaillants qui les accusaient d'organiser des ateliers mixtes. Ils ont donc été accusés de créer une nuisance publique et de porter atteinte à la sécurité publique dans une station de police, a ajouté M. Basri, précisant qu'il allait faire appel. En Tunisie, 11 personnes sont poursuivies pour l'attaque début septembre ayant coûté la vie à un gendarme dans la ville touristique de Sousse, une opération revendiquée par l'organisation djihadiste État islamique, a indiqué vendredi un responsable judiciaire. Le père jésuite Ephraim Landou nous introduit maintenant à la méditation avec les lectures du 26e dimanche du temps ordinaire.
Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus, en ces 26e dimanche du temps ordinaire, laissons-nous pénétrer par cet appel du psalmiste. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le chrétien, en effet, ne reste pas insensible à la voix du Seigneur. Celle-ci mobilise son être, son agir, et le place radicalement sur le chemin de la sanctification, en se dépouillant lui-même de tout orgueil, de tout artifice, et en partageant les mêmes sentiments que Jésus-Christ. L'obéissance et l'accomplissement de la volonté du Père. C'est donc dans cette direction que veulent nous conduire les textes que la liturgie nous propose en ces dimanches. Parfois, cette volonté du Père pourrait paraître étrange pour nous, comme pour le déporté d'Israël à Babylone, à qui le prophète Ézéchiel exhorte de se retourner vers le Seigneur. Car l'homme juste qui se détourne de sa justice ne marche plus selon la volonté de Dieu. Il s'est perverti et suit les chemins de sa perdition. Tandis que le méchant qui se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, obtient du Seigneur le salut. Ces contrastes existentiels, l'évangile de saint Matthieu nous a donné un exemple saisissant dans la parabole des deux fils envoyés par leur père pour travailler à sa vigne. Dans le refus du premier, puis son repentir à se rendre à la vigne, et l'approbation du second, puis sa dissimulation et son refus de s'y rendre, le Seigneur entend nous rappeler que c'est la disposition de notre cœur qui nous conduit à accomplir la volonté de Dieu. Cette disposition intérieure devrait nous amener à accomplir les bonnes actions et non à faire l'étalage de nos bonnes intentions. Car l'Évangile nous dit la même chose en d'autres termes. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et saint Paul nous donne un exemple concret de l'accomplissement de la volonté de Dieu qui devrait aller jusqu'au dépouillement de soi-même, le Christ Jésus. Lui qui, des conditions divines, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Et dans cet acte de dépouillement de soi, Dieu l'a souverainement élevé, lui dotant d'un nom au-dessus de tout nom. C'est cela même le sens profond de la volonté de Dieu, offrir dans sa libéralité et sa souveraine majesté le salut éternel à qui se dépouille en sa présence et poursuit sa justice qui dépasse tout entendement humain. Puissions-nous, chers frères et sœurs, poursuivre la volonté de Dieu en disposant toujours des mêmes sentiments que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Amen.
Le père jésuite Martin Bahati nous présente le document final de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques sur l'Amazonie.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous commençons la présentation du troisième chapitre du document final du Synode sur l'Amazonie intitulé « De nouvelles pistes pour la conversion culturelle ». Ce chapitre est constitué de quatre points essentiels, à savoir 1. Le visage de l'Église dans les villages amazoniens, 2. Pistes pour une Église inculturée, 3. Pistes pour une Église interculturelle et 4. De nouvelles pistes pour la conversion culturelle. Le premier point qui présente le visage de l'Église dans les villages amazoniens s'étend sur deux petits points, à savoir les valeurs culturelles du peuple amazonien et une Église présente et alliée de peuples sur les territoires. Avant de présenter les deux sous-points, le document final du Synode sur l'Amazonie parle de l'immensité de la biodiversité et la grande diversité culturelle. Bien qu'elle soit une terre de forêts et d'eau, de landes et de zones humides, de savanes et de chaînes de montagnes, l'Amazonie est surtout une terre aux peuples innombrables, dont beaucoup parmi eux habitent là depuis des millénaires, présents de manière ancestrale sur ces territoires. Ainsi, propose le document final, la conversion devrait aussi être culturelle, se faire l'autre, apprendre de l'autre, être présent, respecter et reconnaître ses valeurs, vivre et pratiquer l'inculturation et l'interculturalité dans notre annonce de la bonne nouvelle. Exprimer et vivre la foi en Amazonie est un défi permanent. Dans les territoires de l'Amazonie, il y a une réalité pluriculturelle qui exige d'avoir un regard qui inclut tout et exige d'utiliser des expressions qui permettent d'identifier et de relier tous les groupes et qui reflètent des identités qui soient reconnues, respectées et promues dans l'Église que dans la société. Seule une Église missionnaire insérée et inculturée fera émerger des Églises autochtones particulières, c'est-à-dire des Églises au visage et au cœur amazonien, enracinées dans les cultures et les traditions propres au peuple. unis dans une même foi au Christ et diverses dans leur manière de vivre cette même foi, de l'exprimer et de la célébrer. Décrivant les valeurs culturelles des peuples amazoniens, le document final stipule que chez les populations amazoniennes, on trouve des enseignements pour la vie.
Invité du jour.
Notre invité du jour est le père jésuite Max Sinker, directeur de l'école technique Mwaposukeni dans la ville de Lubumbashi au sud-est de la République démocratique du Congo. Il nous présente de prime abord cette école qu'il dirige avant d'aborder d'autres sujets y relatifs. Suivez.
Le collège technique Mwaposukeni est en sa 7e année d'existence. C'est une initiative du couple Karine et Moïse Katumbi qui en sont les fondateurs. Et ils en ont fait don à la Compagnie de Jésus dans la province d'Afrique centrale, essentiellement pour assurer une formation intégrale, une formation de qualité, en vue d'offrir une main d'œuvre technique qualifiée et compétente et à la région et au pays tout entier.
Et déjà, comment est organisé le collège? Je veux dire, quelles sont, par exemple, les sections qui sont organisées?
Au point de départ, il est bon de savoir que le collège Mwaposukeni est une école mixte, avec environ 20% de filles. Pour le moment, nous organisons trois sections, la construction métallique, l'électronique et la mécanique automobile.
Le collège Mwaposukeni a-t-il une particularité? Qu'apporte-t-il de nouveau dans le secteur éducatif à Lubumbashi? Nous sommes en République démocratique du Congo.
D'emblée, je dirais d'abord que l'éducation de la jeunesse fait partie intégrante de la mission de la Compagnie de Jésus dans le monde. Et les jésuites, comme vous le savez, en ont une longue tradition dans ce domaine de l'éducation. Et du reste, c'est actuellement la deuxième de quatre priorités apostoliques et universelles édictées l'an dernier, c'est-à-dire en 2019, par notre supérieur général pour les 10 prochaines années. Et pour revenir à votre question, la présence jésuite dans l'éducation secondaire dans l'archidiocèse de Lubumbashi relève d'une contribution à la pastorale diocésaine dans ce domaine. C'est à la fois en réponse à l'appel de l'Église locale, appel des autorités politico-administratives, appelle également des parents d'élèves que nous sommes ici comme jésuites. Mais quant à savoir ce que la Compagnie de Jésus y apporte, j'estime que c'est plutôt aux bénéficiaires d'y répondre mieux. Néanmoins, les échos qui nous parviennent et les résultats obtenus en ces jours prouvent, si besoin en est, que l'apport complémentaire de la Compagnie de Jésus dans le secteur éducatif à Lubumbashi est bien apprécié. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre question.
Tout naturellement, vous rencontrez des difficultés, vous faites face à des défis. Est-ce que vous pouvez en relever quelques-uns?
Effectivement, les défis et les difficultés ne manquent pas. Mais je dirais que les défis et difficultés les plus importants auxquels nous faisons face sont de deux ordres. Le premier sont liés à la formation. La formation aussi bien des apprenants que celle des formateurs. Pour ces derniers, c'est-à-dire pour les formateurs, il s'agit surtout de garantir une formation permanente, celle de mise à jour pour employer une expression moderne. Quant aux apprenants, comment leur assurer une formation intégrale de qualité dans un environnement peu propice? Cette situation nous pousse à considérer sérieusement l'option pour le collège technique Mwaposukeni de disposer de sa propre école primaire comme pépinière, ce qui, nous l'espérons, pourra réduire considérablement le taux annuel de déperdition scolaire, car actuellement ce taux est de l'ordre de 12%. Le second défi, c'est le coût onéreux d'une école technique et de surcroît privée ne bénéficiant d'aucune subvention de pouvoir public. Donc voilà là un peu résumé ce que j'ai appelé les deux grands défis du moment pour notre collège.
Cela dit, est-ce que vous avez un dernier mot ou, disons, un appel à lancer aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté?
Dans le cas d'un pays comme la République démocratique du Congo, disposer de techniciens de qualité est un atout pour le développement. Aussi, je lance un appel à tous ceux qui le peuvent pour qu'ils s'engagent à soutenir les institutions éducatives du pays qui assurent la formation technique. J'en suis convaincu, le présent et l'avenir du pays en dépendent grandement.
Père Max Sinker, jésuite de la République démocratique du Congo, directeur de l'école technique Mwapo-Soukeni à Lubumbashi, ville située au sud-est de la République démocratique du Congo. Propos recueillis par Jean-Paul Kamba.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est ici que prend fin cette édition de notre programme, préparée par tout le service Français-Afrique de Radio Vatican et qui vous a été présentée par Françoise Niamien. Merci de l'avoir suivi et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. Au revoir.